Bonjour et bienvenue à notre podcast dédié aux prochaines semaines du cinéma français à Passau. Je m'appelle Eva et je suis étudiante en enseignement pour les matières français et géographie.
Et moi, je m'appelle Yara. Je suis également étudiante à l'université de Passau pour les matières français et anglais. Et je me réjouis d'être ici avec toi, Eva.
Moi aussi. Comme chaque année, cet événement incontournable, la Semaine du cinéma, se tiendra du 10 au 20 janvier 2025. Une excellente manière de se préparer aux journées franco-allemandes, célébrées traditionnellement le 22 janvier.
Oui, c'est une belle opportunité pour découvrir la culture française à travers des films qui touchent à des thèmes universels et actuels.
Oui, le cinéma Schaffrichter de Passau offre à nouveau aux enseignants la possibilité d'organiser des matinées cinématographiques pour leur classe, mais aussi pour les passionnés de la langue, comme toi et moi, et de la culture française. Et en complément, des dossiers pédagogiques ont été spécialement conçus pour accompagner les films présentés. Et ces dossiers ont été créés avec beaucoup d'engagement et de créativité par des étudiantes en formation didactique à l'université de Passau. Et c'est dans le cadre du séminaire Le Média en classe de français. Et même s'ils sont encore en cours de perfectionnement, ils constituent une ressource précieuse pour les enseignants, idéale pour enrichir leurs cours de français avec des activités inspirantes et en lien avec le cinéma.
Et c'est vraiment génial. Et cela rend les cours beaucoup plus vivants, n'est-ce pas?
Absolument. Et pour les spectateurs, il y a un film pour tous les goûts, des drames familiaux comme Le Retour, des histoires captivantes comme Le Théorème de Marguerite ou des récits émouvants sur la vie quotidienne avec un plein temps et aussi des sujets importants avec la dérive des continents au sud. Et c'est une sélection pleine d'émotions et de réflexions qui va sûrement vous plaire. Et maintenant, il est temps de mettre un coup de projecteur sur un cinquième film qui nous a particulièrement touchés, et c'est Les Petites Victoires. Et c'est un long-métrage réalisé par Mélanie Auffray et sorti le 1er mars 2023. A déjà conquis près de 950 000 spectateurs en France. Et ce n'est pas un hasard.
C'est vrai. Ce film a su toucher un large public grâce à son mélange d'émotions et d'humeur.
Oui, imaginez un petit village paisible, mais en perte de vitesse, où Alice, une femme dévouée, combine avec passion son rôle de mère et celui d'enseignante, et sa routine bien remplie prend un tournant inattendu lorsqu'un jour, Émile, un homme avec environ 65 ans, au caractère bien trempé, s'assied dans sa classe de l'école primaire. Et ces jours-là, il décide qu'il est temps pour lui de relever un défi immense et c'est à apprendre à lire et à écrire.
Ce duo improbable est vraiment au cœur du film et leur aventure est aussi drôle, non?
Oui, leur histoire met en lumière des thématiques profondes comme l'importance de l'éducation, mais aussi la solidarité entre les générations différentes et le combat contre l'illettrisme.
Et tout cela est traité avec une sincérité désarmante qui donne vraiment à réfléchir.
Qu'est-ce que je vois, Madame le maire? Qui est enterré à côté de mon Marcel? Cette garce de Georgette Moreau. Et alors? Elle a toujours tourné autour de mon mari.
Bordel, il y a un trou comme ça dans la chaussée.
On attend son tour.
Oh, ta gueule, la cocu. J'ai failli escater ma bagnole, faut me réparer ça.
Allez, on range les vélos. Oh, non,
mais qu'est-ce que vous faites là?
Je viens apprendre.
Pourquoi tu sais pas lire?
C'est jamais rentré dans ma tête et puis après j'ai oublié. A, U.
Non, A, U, ça fait O.
Bah non, ça fait A, U.
Ah non, ça fait O.
Et PH, ça fait F.
Non, tu déconnes.
Vous avez vu ma dictée? Presque sans faute.
Juste 12. Monsieur Menot, la cigarette?
Bah, c'est la récré.
Inspiré par cette œuvre, nous avons choisi de creuser le thème de l'illettrisme, une problématique souvent invisible, mais qui concerne encore des millions de personnes à travers le monde.
Oui, oui. Et l'illettrisme reste un problème bien plus courant qu'on ne le pense. Il peut avoir des conséquences énormes sur la vie quotidienne.
Et maintenant, Yaren va nous expliquer ce phénomène, ses impacts et pourquoi il est si important d'en parler.
Merci Eva. L'illettrisme ou bien l'analphabétisme, c'est une réalité que beaucoup de gens sous-estiment. En France, il touche des personnes qui ont été scolarisées mais qui n'ont pas acquis une maîtrise suffisante des compétences de base, lire, écrire ou calculer. Cela les empêche d'être autonomes dans des situations de la vie quotidienne.
Moi, je pensais que c'était la même chose.
Ah non, c'est une question très importante. Alors, l'analphabétisme, c'est quand une personne n'a jamais été scolarisée. Elle n'a donc jamais appris à lire ni à écrire. En revanche, une personne illettrée a été scolarisée, mais diverses raisons. Elle n'a pu conserver ses compétences ou les développer suffisamment. Par exemple, elle peut lire quelques mots ou phrases, mais malheureusement, pas un texte plus long ou complexe.
Mais quelles sont les causes de l'illettérisme? Pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à apprendre correctement à l'école?
Il y a beaucoup de raisons. Parfois, c'est à cause d'une expérience scolaire traumatisante, comme un enseignant qui humiliait l'élève devant la classe. Mais il y a aussi les interruptions dans la scolarité, comme des problèmes familiaux ou sociaux. Et dans certains cas, c'est simplement parce que ces personnes n'ont pas eu besoin d'utiliser l'écrit dans leur quotidien, alors elles ont perdu leurs compétences avec le temps.
Ça doit être difficile à vivre. Quelles sont les conséquences pour ces personnes?
Oui, Eva, c'est très difficile. Imagine-toi incapable de lire une notice de médicament ou un panneau de bus ou une consigne de sécurité. Cela crée beaucoup de dépendance et de frustration. Ces personnes ont souvent une faible estime d'elles-mêmes et elles ressentent de la honte. Et socialement, elles peuvent être exclues des activités culturelles, par exemple, ou même de la citoyenneté.
Comme voter?
Oui, par exemple, oui, comme voter.
Ah, j'imagine que oui, c'est terrible. Mais pourquoi dans des pays comme la France ou l'Allemagne, où l'école est obligatoire, y a-t-il encore autant de personnes illettrées?
Et c'est aussi une très bonne question. L'illettrisme persiste parce que le système scolaire ne s'adapte pas toujours aux besoins individuels des élèves. Des enfants qui ont des difficultés à lire et à écrire ne reçoivent pas suffisamment de soutien. D'autres grandissent dans des environnements où l'éducation n'est pas valorisée, où la langue parlée à la maison est différente de celle de l'école. Parfois, c'est tout simplement un problème de suivi. Des élèves passent au niveau supérieur sans avoir maîtrisé les bases.
C'est vraiment un problème complexe. Mais merci pour toutes ces explications, Yaren.
Oui, avec plaisir. Plus on en parle, mieux on peut lutter contre l'illettrisme. Et n'oublie pas, ce n'est jamais trop tard pour apprendre ou pour aider quelqu'un à le faire. Et surtout parce que toi et moi, nous voulons devenir enseignantes. Donc, Eva et moi, nous avons profité de cette occasion de faire ce podcast pour interviewer une enseignante de Passau. Elle est professeure dans un lycée et au début de l'interview, nous avons regardé un extrait du film ensemble. Alors, bonne écoute!
Bonne écoute!
D'accord, et maintenant nous allons vous montrer une scène du film et vous pouvez ensuite nous raconter comment vous auriez réagi.
Moi 10 fois, oui Elliot, qu'est-ce qu'il y a?
Pourquoi il y a un vieux monsieur?
Un vieux monsieur?
Oui.
Monsieur Menot?
Ah ben, je suis toujours là. Et là,
Eh ben, il y a ton père.
Oui.
Oh, vache. Ils ont pas changé les tables. Hein. Il va où le pognon de nos impôts?
Ben, qu'est-ce que vous faites, là?
Ben, c'est ma place.
Mais c'est-à-dire?
Ben, je viens apprendre. C'est ici que ça a merdé, c'est ici que ça repartira.
Oui, non, mais non. Non, ça va pas être possible, hein. Ah, je peux pas vous garder dans ma classe, monsieur Menou.
Ben, pourquoi vous pouvez pas?
Eh ben, pourquoi? Ben, parce que... Eh ben, déjà la loi, et puis aussi, parce que, vous voyez, mon plus vieil élève ici, il a 11 ans.
Alors, aujourd'hui, il en a 65. Allez.
Bon, monsieur Menou, je comprends votre situation, mais là, ce matin, c'est pas possible, d'accord? Vous pouvez pas rester là.
Bon, ça, c'est une très bonne question, mais aussi une question très difficile, parce que c'est une scène assez bizarre, et je crois que cette scène ne se passerait jamais en réalité. Et bon, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais demandé au proviseur comment réagir, comment continuer, mais je ne crois pas que ce serait possible en réalité.
Mmh, je comprends. Et au cours de votre carrière, avez-vous rencontré des élèves ayant des difficultés à lire et à écrire?
Ah oui, bien sûr. Il y a toujours des élèves qui ont des difficultés à lire et à écrire, mais je me souviens particulièrement d'un élève arrivé en classe de 5e qui répétait souvent qu'il perdait le fil en lisant. Et il s'est avéré qu'il pouvait déchiffrer les mots lettre par lettre, mais que le contenu restait pour lui une énigme. Pour moi, c'était un moment clé. J'ai compris à quel point les problèmes de lecture et d'écriture sont complexes et combien il faut du courage pour vraiment oser en parler.
Oui, selon vous, quels sont les plus grands défis auxquels ces élèves sont confrontés?
Ah ben, ce n'est pas seulement la difficulté technique, je dirais, mais le poids émotionnel est énorme. Beaucoup d'élèves ont peur d'être jugés, alors ils essaient de cacher leurs difficultés. Ils veulent paraître normaux, mais au fond, ils se sentent souvent stupides ou incapables.
Ça doit être déchirant de les voir dans cet état d'esprit.
Ah, absolument. Et pour nous, enseignants, c'est un vrai défi. On doit créer un environnement où les erreurs sont acceptées, voire encouragées. Et vous savez, je leur dis souvent, les erreurs sont comme des panneaux indicateurs. Elles vous montrent où aller.
Mm-hmm, quelle belle métaphore. Je suis sûre que cela doit les rassurer. Comment avez-vous aidé ces élèves en difficulté? Avez-vous utilisé des approches particulières?
Oui, il y a une méthode qui a très bien fonctionné pour moi, c'est le peer learning. J'ai associé un élève qui maîtrisait bien la lecture avec un autre en difficulté. Ensemble, ils ont exploré des textes et ont partagé leurs idées.
Ah ouais, c'est malin. Ça leur donne aussi un soutien direct entre pairs. Et ça a fonctionné?
Ben oui, tout à fait. Cela a non seulement renforcé leurs compétences, mais aussi leur confiance en eux. Et j'ajoute aussi beaucoup d'activités ludiques, des jeux de mots, des énigmes par exemple. Et vous devriez voir leur enthousiasme quand ils résolvent un jeu et comprennent qu'ils progressent.
J'imagine la fierté sur leur visage. Et pouvez-vous partager une histoire de réussite concrète?
Oui. Bien sûr, un élève m'a particulièrement marqué. Il avait des grandes difficultés en écriture et en orthographe, mais il avait écrit un poème dans le cadre d'un projet.
Un poème? Avec des difficultés comme ça? C'est impressionnant.
Oui, en plus, le texte était vraiment magnifique. Nous avons travaillé ensemble sur les corrections et après, il a récité son poème devant toute la classe. Et ce moment a été un tournant pour lui. Les applaudissements qu'il a reçus lui ont donné la confiance nécessaire pour vraiment continuer à progresser. Ça, c'est vraiment inspirant, non?
Oh, totalement. Je suis sûre que vous avez joué un rôle déterminant dans sa réussite. Et comment pourrait-on sensibiliser les élèves et les parents à ce problème?
Je pense que les histoires sont un point de départ. Par exemple, un film comme Les Petites Victoires peut montrer que ces difficultés touchent
vraiment tout le monde.
Oui, les parents doivent souvent voir qu'ils ne sont pas seuls face à ces défis.
Exactement. Et les élèves pourraient aussi écrire leurs propres histoires sur leurs expériences. Cela les aiderait à transformer leurs défis en force, et tout en impliquant les parents. Après tout, le plus important, c'est l'accompagnement et le soutien.
Vous avez tellement raison, et ça fut un grand plaisir de parler avec vous et de partager votre expérience avec nous. Merci beaucoup.
De rien.